Le journal, Jakif Molima.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal parlé. Voici les titres de l'actualité. La ville de Guadolité dans la province de l'Équateur est vidée d'une bonne partie de sa population. À l'origine, une folle rumeur présageant des troubles dans la ville ce dimanche 19 décembre, le 19 novembre. Les détails dans cette édition du journal parlé. Pendant ce temps, à Matadi, dans le Bas-Congo, ce sont les usagers de la nationale numéro 1 qui se plaignent de tracasseries routières. Malgré la décision du gouvernorat, les barrières persistent toujours. Par ailleurs, à Kindu, un bouffé d'oxygène pour les 5000 enfants malnutris. Un train humanitaire de femmes est arrivé ce matin avec à son bord des 150 tonnes de vivres. Mesdames et messieurs, bonjour. Panique à Guadolité, une bonne partie de la population quitte la ville pour trouver refuge dans la brousse et les villages environnants. À la base de cette situation, une folle rumeur présageant des troubles dans la ville ce dimanche 19 novembre. Dans ce mouvement de fuite, deux personnes qui s'étaient réfugiées dans la brousse sont mortes de morsures de serpent. Des précisions avec Dominique Wolombi Mongapangi.
Depuis une semaine, Guadolité s'est vidée d'une bonne partie de sa population. Selon le vice-maire Léo Gekou, cette situation fait suite à une rumeur redoutant ce dimanche 19 novembre, un affrontement entre les éléments DPP de Jean-Pierre Bemba et les bataillons de la police d'intervention rapide récemment affectés à Guadolité. À cette rumeur qui s'est propagée comme une flambée de poudre, s'est ajoutée une mauvaise interprétation de la contestation de l'élection de Joseph Kabila par Jean-Pierre Bemba. Un bon nombre de familles prises de panique ont quitté Guadolité. D'autres se sont réfugiées dans la brousse. Dans ce mouvement des fuites, au moins 3 personnes sont mortes. Un bébé tombé au moment où sa mère courait est mort, la côte est brisée. 2 autres personnes mordues par des serpents sont décédées. Une femme se trouve en ce moment entre la vie et la mort à l'hôpital. Elle a été mordue par un serpent au niveau du cou. Face à cette panique, à l'issue de la réunion du comité local de sécurité, le vice-maire a lancé un message à la radio locale invitant la population au calme et à regagner la ville. Le même message est passé ce dimanche dans les différentes églises de la place. Selon Luc Gekou, quelques familles ont commencé timidement à rentrer chez elle. Déjà mercredi dernier, le gouverneur des provinces avait effectué les déplacements de Guadolité pour inviter la population au calme. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Toujours dans la province de l'Équateur, hier samedi, la ville de Lissala a ressemblé à une ville fantôme. Les habitants, pris de panique aussi, sont restés terrés dans leurs maisons. Depuis le matin, le marché et boutiques sont restés fermés. À l'origine de cette ambiance inhabituelle, une folle rumeur aussi qui a fait le tour de la ville, faisant état de la présence des démobilisés qui se seraient en train de piller l'un des marchés de la place. Vérification faite de tout cela, rien n'était exact. Les démobilisés incriminés n'étaient pas dans un marché, mais ils avaient par contre constitué une délégation qui allait répondre à un rendez-vous avec les autorités locales et la MONUC. Malheureusement, la rumeur a couru et a couvert la ville en causant du tort, toujours, surtout du côté des vendeuses qui, prises de panique, ont perdu beaucoup de leurs marchandises et autres effets dans la bousculade. Écoutons cet habitant de Lissala, il a été joint au téléphone par Ghislaine Nentobo.
Une rumeur a circulé comme quoi les démobilisés avaient déjà commencé à piller les marchés alors qu'ils n'étaient pas sur place, ils n'avaient même pas les tensions. Au contraire, ils se sont rendus ce matin seulement à la MONUC de suite d'un communiqué de leur chef communautaire qui était sur place, comme quoi ils avaient invité à apporter une solution le 18 novembre. Ils sont venus au rendez-vous. Ils sont allés à la MONUC ensemble avec l'inspecteur principal de la police pour trouver un peu de compromis. Mais curieusement, au niveau du marché, beaucoup de mamans ont été paniquées. Ils ont d'ailleurs perdu beaucoup de leurs marchandises, les versets, les poissons piétinés. Beaucoup même ont perdu leur argent pour des liens. Donc c'était seulement une rumeur qui était incontrôlée.
Oui, sachant que la situation était redevenue calme l'après-midi, le marché de Lissala a pu accueillir ce marchand et acheteur comme d'habitude. Une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, le général Denis Kalomé, est arrivée cet avant-midi à Bolobo, dans la province du Bandundu. Ce déplacement fait suite aux affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre les tribus Banounou et Batende dans la localité de Bolobo, située à plus de 300 km de Bandunduville. Le ministre et toute sa suite sont allés donc réconcilier ces deux ethnies dont la cohabitation est difficile. À cet effet, le président de la République a mis à la disposition de l'équipe qui accompagne le ministre un canot rapide pour le cas d'évacuation des victimes, un lot de médicaments et de vivres. Et puis notons que 40 policiers avaient été déjà dépêchés sur place depuis avant-hier pour rétablir l'ordre. Malgré la décision du gouverneur du Bas-Congo, les tracasseries persistent sur le tronçon Boma-Mwanda. Il y a plus d'une semaine, le gouvernorat avait pris la mesure de supprimer toutes les barrières sur la nationale numéro 1. Les usagers du tronçon Boma-Mwanda continuent donc à dénoncer des tracasseries dont ils sont victimes dans les barrières érigées sur cette route. Guy Rosignampala pour le détail.
Sur ce tronçon d'une distance d'environ 130 km, on peut compter jusqu'à 8 barrières, témoigne un commerçant de Boma qui a requis l'anonymat. Les usagers de cette route sont obligés de payer 100 à 400 francs congolais à chaque barrière où sont postés les agents de la DGM, les éléments de la police nationale congolaise ainsi que ceux des FARDC. En cas de résistance, poursuit la même source, la personne ou le véhicule est retenu pendant plusieurs heures. Contacté, Pakuma Pangula, maire de la ville de Boma, se dit étonné de cette information car selon lui, les mesures ont été prises pour interdire cette pratique. Il invite cependant les victimes à dénoncer de tels actes auprès des autorités compétentes. Koalo Selo, administrateur du territoire de Mwanda, rejette ces affirmations de la population. Il dit avoir tenu vendredi dernier une réunion de sécurité avec les cadres de sa juridiction afin de s'assurer de l'application de cette mesure. Rappelons que selon ce communiqué officiel rendu public le 9 novembre dernier par le gouvernorat du Bas-Congo, la circulation sur la nationale numéro 1 devenait libre 24 heures sur 24 et il était formellement interdit. Dit toute interpellation des conducteurs ne se trouvant pas en situation infractionnelle. Matadi, Biroje Nyapala, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province orientale, précisément à Kisangani, où le groupe Lotus, une association de défense des droits de l'homme, dénonce des menaces, harcèlement et intimidation contre son président Dismas Kitenge. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le groupe Lotus accuse quelques cadres et militants du Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, et des soldats de l'armée nationale congolaise. Ces pressions, selon le groupe Lotus, visent à restreindre les libertés d'expression et d'opinion des défenseurs des droits de l'homme, Dismas Kitenge.
Depuis la conférence de presse du 28 octobre, au cours de laquelle j'ai fait un bilan sur le déroulement de la campagne présidentielle, j'ai su l'objet de menaces, d'intimidations, d'harcèlement de la part de certains membres du PPRD et des éléments de la 9e région militaire de Kisangani qui me reprochent de prendre fait et cause pour le camp de Bemba. Et ces menaces ne sont pas seulement arrêtées à mon niveau, c'est parti jusqu'au niveau de la famille. Précisément, j'ai eu un coup de fil avec un des hommes influents du PPRD qui m'a fait également les mêmes intimidations selon lesquelles j'ai touché les personnalités du pays en les épinglant comme des personnes qui font partie des rapports des Nations Unies sur le pillage et l'exploitation illégale des ressources. Je le prends très au sérieux puisque dans le passé, j'ai déjà été attaqué dans mon domicile à deux reprises par des hommes armés non identifiés.
Du côté de l'armée, le chargé de renseignement de la 9e région militaire affirme ne pas être au courant de ces pressions. Même réaction du côté du PPRD Province Orientale qui accuse à son tour le président du groupe Lotus de comportement partisan. Docteur Diedonné Mata, secrétaire exécutif du PPRD Province Orientale.
Nous ne reconnaissons pas ces faits qui nous prouvent qui a tenu ces propos, à quelle occasion. Quel était le contenu de ces messages? Il faut qu'il soit clair qu'il sort de sa réserve. Nous l'invitons à identifier ces membres influents-là, qui citent son nom et qu'ils reprennent ses propos. Nous ne savons de qui il parle. Nous savons que Dismas Kitenge, pour nous, ce n'est pas un activiste des droits de l'homme, c'est un opposant au chef de l'État actuel et un opposant à son mouvement. Ses prises de position partisanes l'éprouvent à suffisance. C'est pourquoi je l'invite à un débat radio-télévisé pour qu'il nous fournisse des éléments sur cette déclaration.
Ce dossier a été réalisé par Jacques Moukonkole. Autre chose, à présent, une bouffée d'oxygène pour 5000 enfants malnutris du Maniema. Un train humanitaire est arrivé ce matin en provenance de Lubumbashi dans le Katanga, avec à son bord plus de 250 tonnes de petits pois, farine de maïs, sel et huile végétale. Ces vivres sont destinés à nourrir les enfants malnutris admis dans le centre nutritionnel de Kindu et de ses environs. Le reportage de Diedonné Toumba Mobile.
C'est l'arrivée à Kindu ce matin du train humanitaire parti de Lubumbashi depuis le 5 octobre dernier, tirant 7 wagons avec 277 tonnes de vivres. La locomotive a connu plusieurs pannes lors de son parcours. Ces vivres sont constitués de petits pois, de farine de maïs, du sel et de l'huile végétale. Ils sont destinés à nourrir les enfants malnutris de Kindu et de ses environs. Selon les responsables du sous-bureau des PAM, les Maniema comptent actuellement 28 000 enfants qui souffrent de la malnutrition, dont 5 200 admis dans des centres nutritionnels de supplémentation à Kindu. La même source indique aussi que la dernière livraison date du mois d'avril 2006. Notons que pendant toute cette période, c'est à partir de Goma par voie aérienne que Pan Maniema était approvisionné. De Kindu, de données Tumba Mobile, Radio Okapi.
Mbujimayi, des quartiers de la commune de Dibindi sont déclarés inhabitables. Cette décision est consécutive à un effondrement du terrain sur une étendue de 12 hectares dans le quartier. Au moins 737 familles sont touchées et ont dû quitter le quartier. À cet effet, une commission d'urgence est mise sur pied avec pour mission de trouver un nouveau site d'hébergement pour la réinstallation des victimes. Le point avec Emmanuel Elamegi.
Il s'agit des quartiers Mikela et Chia dans la commune de Dibindi, déclarés sinistrés à la suite de l'affaissement du terrain sur une superficie d'environ 12 hectares. Cette zone est déclarée par conséquent non habitable. Dominique Kankou, gouverneur de province qui signe cet arrêté, rappelle l'effondrement inquiétant qui a englouti plusieurs habitations de ce quartier. Glissement du terrain ayant causé le déplacement d'environ 750 familles, soit plus de 5000 personnes. Dominique Kankou a mis sur pied un comité ad hoc chargé de trouver un nouveau site d'hébergement des victimes du sinistre, de mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et de veiller à la réinstallation juste et équitable des victimes. Il est composé d'un délégué du gouvernorat, de la mairie et de la MIBA, de la FEC et de l'Office de route, de la société civile et j'en passe. Albert Kabasele Chikunza, directeur de cabinet du gouverneur et président de ses comités, affirme qu'il s'agit des mesures d'urgence afin de trouver une solution le plus tôt possible. Signalons que les résultats des dernières études menées par l'Office de voirie et drainage montrent qu'il fallait un montant d'environ 600 000 dollars américains pour intervenir techniquement et stabiliser le terrain de ces quartiers. Emmanuel Elamejo Akabedi, Mbujimayi, Radio Kapi.
De l'autre côté du fleuve Congo, les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours à Kinshasa n'ont pas épargné la ville de Brazzaville. Conséquence, inondations et ensablement envahissent les habitations. Nombreuses sont les familles brazzavilloises qui ont préféré quitter leur maison et vivre dans la précarité. Le gouvernement des États-Unis a volé au secours de ces sinistrés en leur octroyant une enveloppe de 50 000 dollars pour essayer d'alléger leurs souffrances. Arsène Severin.
Ce que nous sommes en train d'observer à Brazzaville est triste et choquant. Nous devons assister ces milliers de familles congolaises dont l'urgence, a dit Robert Westbeck, ambassadeur des États-Unis à Brazzaville. Après avoir suivi les images à la télévision, l'ambassadeur américain a réussi à mobiliser 50 000 dollars auprès du bureau des aides aux désastres en terre étrangère pour soulager ces familles sinistrées. Les inondations et les ensablements touchent les quartiers de Mpila, de Mwale, de Ngamakoso à Talangaï et maintenant les communes de Makelekele et de Mfilou. Depuis le 2 novembre, il pleut presque jour pour jour à Brazzaville et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Mais le gouvernement n'a encore rien fait en dépit des cris répétés des populations sinistrées. Robert Westberg a demandé à d'autres pays et certaines organisations internationales à se joindre aux États-Unis pour aider les Brazzavillois en détresse. Arsène Severin, Brazzaville, Radio Kapi.
Enfin, Lubumbashi, réputée ville propre, perd de plus en plus son visage d'antan. L'insalubrité gagne du terrain et cela devient une préoccupation première pour le maire de la ville. Pour ce faire, Kaseba Mankuku a réuni jeudi dernier les responsables des différentes entreprises minières de Lubumbashi pour demander leur implication dans cette lutte. Pour les Mounanga.
Lubumbashi ville propre est un slogan qui commence à disparaître. La ville n'a plus sa beauté d'antan. Il suffit de sillonner le centre-ville pour se rendre compte de la réalité. Les immondices sont visibles à plusieurs endroits. Il n'y a plus de cantonniers. Dans les environs du bâtiment Granat sur l'avenue Kasaï, la situation est encore pire. Les pensionnaires de ce bâtiment déversent sur l'avenue Kasaï les matières fécales. Ils profitent de la pluie pour libérer des latrines. Conséquence, l'eau de la pluie entraîne cette saleté jusqu'aux abords du marché Mzee Kabila, là où les marchands pirates exposent à même le sol, les légumes, les tomates, les poissons et autres marchandises. Pour lutter contre l'insalubrité qui refait surface à Lubumbashi, une commission d'études a été mise sur pied ce jeudi par le maire de la ville. C'était à l'issue de la réunion qu'il a tenue avec les opérateurs miniers. Floribert Kassemamakunko leur a demandé d'apporter leur contribution dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville. Le principe est d'engager des cantonniers qui vont veiller à la propriété de la ville de manière permanente. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Voilà, 12h15 à Kinshasa. Ainsi s'achève cette édition du journal par les mises en onde par Paulin Moukéou. Merci à Jean-Claude Toumba Kamanga et Noël Alouzitou pour la réalisation. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Radio Kapi, www.radiokapi.net. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir. Okapi.